Les colloques du Collège de France.
Bonjour à tous à mon tour évidemment de remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à présider cette session sur le droit. Je suis très heureux que le droit occupe une place importante dans un colloque sur la philologie, hein, puisque c'est un sujet central pour comprendre l'histoire du droit. Personnellement, en tant qu'historien du droit, évidemment, la philologie est un domaine que les juristes doivent investir dans leur étude historique du droit. Donc je suis vraiment, vraiment très heureux de voir la place que prend le droit dans ce colloque. Donc nous avons une session qui est à la fois une session matinale et qui se poursuivra en début d'après-midi et qui est une session bilingue en français et en anglais. Donc je présenterai tous les orateurs en français, comme on m'a demandé, mais évidemment ensuite dans nos échanges nous pourrons dialoguer à la fois en français et en anglais au moment des discussions. Alors pour ne pas perdre de temps, je vais immédiatement vous présenter le premier orateur, s'il est nécessaire de le présenter dans ces lieux, puisqu'il s'agit de Dario Mantovani, qui est professeur ici au Collège de France. Il est titulaire de la chaire Droit, culture et société de la Rome antique, et il est membre de l'Institut. Dario Mantovani place la philologie au cœur de ses recherches. Je ne vais citer que deux éléments très récents. En 2025, il a co-dirigé avec François Bougard et Luigi Alberto Sanchi l'ouvrage « Voix et voix de la philologie classique », que vous pouvez d'ailleurs consulter librement en ligne. Et puis, il est depuis 2025 le président de la Société internationale de bibliographie classique, qui soutient la rédaction et la publication de l'année philologique. La communication de Dario Mantovani s'intitule « Le paratexte des livres des juristes romains, 2e, 6e siècle ». Cher Dario.
Ce n'est pas aisé de prendre la parole après dans un colloque où Antoine Compagnon constitue le parangon. Et d'autant plus quand on va utiliser forcément le mot paratexte. Et donc, je pense que je ferai fonction de paratonnerre pour vous tous. Je tiens d'abord à remercier Francesca Barone, Arnaud Perrault, qui ont vraiment œuvré pour organiser cette initiative et ce regard complexe sur la périgraphie et le paratexte qui constitue une initiative pas du tout marginale, je dirais. Alors, à Rome, dès le 3e siècle avant Jésus-Christ, les juristes avaient pour mission de répondre aux consultations des particuliers, des conseillers, juges et magistrats. Par leurs réponses, ils contribuent et à l'élaboration et à la divulgation du droit de la cité, le jus civile. Certains juristes ont mis également leurs opinions par écrit, donnant naissance à une véritable littérature, dont l'apogée se situe entre le 2e et le 3e siècle après Jésus-Christ, avant de s'épuiser à l'époque de Dioclétien. La copie et la circulation de ces mêmes livres, qui ont continué pendant toute l'Antiquité tardive, a permis la propagation de la connaissance du droit à l'échelle de l'Empire. Aujourd'hui, cette littérature ne nous est connue que presque exclusivement à travers l'anthologie compilée en 533, par Justinien, sous le titre de Digeste. Dans le même mouvement, Justinien interdit, sous peine de lourdes sanctions, l'usage des ouvrages originaux des juristes, et cette interdiction entraîna la fin de leur transmission et leur disparition rapide. C'est un cas presque unique d'une disparition sanctionnée par loi. C'est justement pourquoi les écrits des juristes ne nous sont parvenus pour l'essentiel, qu'à travers le digeste de Justinien, comme je viens de le dire, sous une forme donc indirecte et d'ailleurs fragmentaire. Ce n'est toutefois pas du digeste qu'il sera question ici, en dépit du fait que c'est d'un manuscrit du digeste du XIIe siècle qu'est tirée l'image qui figure sur l'affiche du colloque. L'attention portera de mon intervention en revanche sur les livres des juristes romains eux-mêmes, en particulier sur leur aspect matériel au cours de la longue période de leur circulation riche et ininterrompue avant l'arrêt de mort prononcé par Justinien au VIe siècle. Ayant ainsi précisé l'objet de mon intervention, j'ajoute que l'étude du paratexte des juristes romains antérieurs à Justinien relève d'abord de l'histoire des études. C'est une question d'histoire de l'historiographie. Je veux dire par là que, malgré le regain d'intérêt pour le paratexte, même dans le champ des études sur l'Antiquité, le domaine spécifique du paratexte des livres des juristes est resté longuement négligé. Des ouvrages importants tels que celui de Schröder, titre un texte, ou le recueil des préfaces rédigées en trois volumes par Santini, Scivoletta et Zurli, n'accordait aucune place aux juristes. Cette lacune reflète, je tiens à le remarquer parce que c'est un phénomène plus général, le fait que la littérature juridique romaine est étudiée intensivement par les historiens du droit, mais demeure presque invisible pour les philologues. De plus, depuis la fin du XIXe siècle, une approche dominante parmi les historiens du droit eux-mêmes a tendu à effacer, j'utilise le mot effacer de façon à bon escient, tous éléments rapprochant les écrits des juristes romains. Donc, les historiens du droit ont tendu à effacer tout élément rapprochant les écrits des juristes romains au reste de la prose latine. Effacer, c'est-à-dire, ils ont dit qu'il s'agissait d'ajouts probablement qui auraient eu lieu au moment du passage du rouleau au codex dans l'Antiquité tardive. Ainsi, pendant longtemps, ces aspects du livre juridique ont été ignorés ou écartés, peu étudiés, alors même, et c'est là le paradoxe, que pour les anciens, le paratexte constituait un élément identitaire des livres juridiques. Donc, c'était un élément qui permettait une reconnaissance des livres de façon presque par synecdoque aux yeux du public antique. Et c'est Pétrone qui nous l'apprend lors du banquet de Trimalcion. Nous y reviendrons. J'étais amené à m'intéresser au paratexte juridique dans le cadre du projet qui a été mentionné par Francesca Barone, consacré à l'étude de la circulation des livres juridiques dans les papyrus, que j'ai mené depuis 2015 grâce à une équipe comprenant également des papyrologues, ce que je ne suis pas, parmi lesquels Marco Fessura, que je salue. Cette recherche, conduite de manière systématique dans les collections muséales européennes et américaines, a permis de presque doubler le nombre de fragments connus d'œuvres des juristes romains avant Justinien. Le chiffre est important, il s'agit maintenant, nous connaissons presque un peu plus de 40 fragments tirés de copies de livres juridiques entre Dioclétien et Justinien. Donc, cette recherche a rendu possible une série d'observations plus systématiques aussi sur le paratexte, qui constitue la base de ce que je vais exposer, que j'ai déjà proposé dans un livre paru en 2018. Alors, pour le dire brièvement, de mon point de vue d'historien du droit, comprendre le paratexte est le moyen le plus direct de saisir concrètement que le droit n'est pas une pensée pure. Il était écrit, il était transmis, Et ces éléments nous permettent de nous rapprocher, d'une certaine manière, de la façon aussi dont le droit était lu et reçu. Alors, examinons donc les éléments du paratexte dans un ordre qui est plus ou moins celui dans lequel un lecteur les rencontrerait dans un livre. Alors, je précise que je considère, sans aucun dogmatisme, mais je vais vous parler du paratexte au sens strict, pour ainsi dire, c'est-à-dire ce qui constitue la charpente d'un livre et qui potentiellement pourrait se reproduire d'un exemplaire à l'autre. Donc, par exemple, pour vous l'expliquer de façon plus concrète, je ne vais pas m'occuper, par exemple, des gloses ou des signes de correction textuelle et qui font partie d'exemplaires, disons, singuliers, précis, ponctuellement. Donc, je parle plutôt de ceux qui, pas forcément, mais potentiellement, pourraient constituer la charpente d'un exemple, d'un ouvrage, et ceux qui pourraient se rapprocher, mais je vais y revenir, un paratexte, un appareil d'auteur. Alors, sur les titres généraux, on peut renvoyer à une étude pionnière et exhaustive de Jean-Louis Ferrari, dans un ouvrage collectif, lui aussi pionnier. Je n'irai pas plus loin ici, sinon pour souligner la variété des titres qui manifestent l'intention des juristes de donner à leurs ouvrages une unité formelle et une certaine identité. L'étude des titres généraux conduit d'ailleurs à une question qui me paraît fondamentale. Peut-on reconnaître derrière un titre donné une forme d'organisation du discours et un style déterminé d'exposition du droit ? Alors, dans certains cas, oui. Par exemple, les ouvrages intitulés Institut, Institutiones, relèvent clairement d'un sous-genre didactique. Ils présentent le droit selon des schémas d'exposition caractéristiques des manuels grecs et romains, division, disons, opération diérétique, définition, parallélisme. Ce sont des schémas que l'on retrouve également, par exemple, dans les manuels de rhétorique ou d'agriculture. De même, d'autres titres annoncent explicitement l'objet et la forme de l'ouvrage, comme les commentaires de l'édit du prêteur, donc c'est transparent, ou les traités intitulés « Sur les devoirs du proconsul ». Toutefois, une large partie des livres de la littérature juridique se caractérise par des formes mixtes, de sorte qu'il n'existe pas de relation directe et systématique entre les titres et les manières d'organiser, de présenter le discours juridique. Donc, question ouverte qui me semble mériterait d'être exploitée, c'est vraiment la question des sous-genres de la littérature juridique. Les préfaces sont aussi des composantes du paratexte. Malheureusement, celles que les juristes romains ont apposées à leurs œuvres ont été rarement conservées. La raison en est simple, les compilateurs de Justinien n'avaient aucune raison d'inclure plusieurs préfaces dans le digeste. Donc nous avons une anthologie, on ne peut pas multiplier les préfaces tirées des livres qui ont été compilés, utilisés, exploités dans l'heure, disons, d'arrivée. Les compilateurs de Justinien ont conservé certains préfaces à des endroits bien précis lorsque cela leur était utile, par exemple au tout début du digeste où on lit la fameuse préface des Instituts d'Ulpien, transformée en préface du digeste tout entier, arborant la formule célèbre « Jus est ars boni et equi ». Même chose au deuxième titre du digeste, c'est un titre consacré à l'histoire du droit, qui contient tout d'abord la préface que le juriste Gaius, au IIe siècle après Jésus-Christ, avait mise au commencement de son commentaire aux douze tables. Étant sur le point de me livrer à l'explication des lois anciennes, j'ai estimé qu'il fallait auparavant remonter aux origines de la cité, non que je veuille faire des commentaires prolixes, mais parce que je constate en toute chose que ce qui est parfait, c'est ce qui est composé de toutes ses parties. Et à coup sûr, la partie la plus puissante, c'est le commencement. C'est merveilleux. Alors, je ne commente pas cette longue préface. Je voudrais simplement attirer votre attention, peut-être vous l'avez déjà remarqué, sur son début, qui fait clairement écho à l'ouverture des histoires de Tite-Live. Gaius commence par « Facturus legum vetustarum interpretationem ». La célèbre préface du livre Ab urbe condita de Tite-Live s'ouvre avec ces mots « Facturus ne opere pretium sim » dans aucun autre texte latin, sauf ces deux. On ne trouve un commencement par « Facturus » et toute cette première, cette préface de Gaius est jalonnée et imprégnée de réminiscences liviennes. Ce qui nous amène à dire, à observer, que les préfaces constituent un seuil, un espace intermédiaire, entre l'extérieur et la spécificité d'un texte juridique, et c'est vraiment là que l'auteur cherche à capter l'attention du lecteur en partageant des éléments plus généraux, souvent conventionnels, c'est très bien, mais toujours révélateurs de leur culture. Ainsi, les préfaces représentent, surtout dans la littérature technique, justement pour la littérature technique, et plus particulièrement pour la littérature juridique, un lieu privilégié où l'auteur, ailleurs, vraiment, qui essaye de s'effacer derrière les contenus, c'est le lieu privilégié où l'auteur vient au grand jour et se laisse parfois entrevoir. Venons maintenant à d'autres éléments du paratexte, strictement liés à la mise en page même des textes. Il s'agit d'abord des rubriques. Au banquet de Trimalcion, un père discute de l'éducation de son fils, le garçon a déjà consacré trop de temps à la culture livresque. Le père confie à ses commensaux qu'il a décidé de l'orienter vers un sujet plus rentable, le droit, et ce qui est le plus important pour nous, ce père explique comment cela va se passer. « Emi ergo nunc puero aliquot libra rubricata ». Je viens donc d'acheter au garçon quelques livres avec des titres à l'encre rouge. Je veux qu'il tâte un peu du droit. Ça peut servir à la maison. C'est une chose qui nourrit son homme, car pour la culture livresque, il en est assez barbouillé. Et s'il n'y meurt pas, j'ai décidé de lui faire apprendre un métier, coiffeur, créateur public ou même avocat, un métier enfin que rien ne puisse plus lui enlever des mains que la mort. Alors, d'un point de vue linguistique, c'est un exemple éclatant du registre familier. Libra rubricata est traité comme neutre, quoique liber soit masculin. Aliquid de jure devrait se dire aliquid iuris. Cela préfigure le passage de la déclinaison des cas à la forme prépositionnelle dans les langues romanes. Un peu de droit. Petron se moque ainsi, de l'ignorant de toute époque qui n'a pas honte d'exprimer son jugement sur l'éducation, en dépit de son ignorance. Le manque de finesse est accentué par la locution aliquid de iure gustare, qui joue de façon prévisible avec le double sens de ius comme droit et comme bouillon, d'où aussi gustare, goûter, qui appliqué au droit dans ce contexte signifie aussi survoler. Une plaisanterie qui continue avec habet ec res panem. Cette chose a du pain. Du point de vue du contenu, c'est évidemment l'expression libra rubricata, livre avec des titres à l'encre rouge qui attire notre attention. Petron évoque les livres des juristes par une synecdoque. Les rubriques à l'encre rouge. Donc, il ne nomme pas les livres du droit. Il fait comprendre qu'il s'agisse de livres du droit en évoquant le paratexte, les rubriques. Donc, aux yeux du public, les textes juridiques sont identifiés à cette caractéristique, la présence de titres intermédiaires à l'encre rouge. En l'espace de quelques décennies, on retrouve cette même expression à peu de variantes près chez Perse, comme chez Quintilien, aussi Juvénal. Toujours à propos d'ouvrages de juristes, ou plus généralement de textes de nature juridique. Nous avons la chance de pouvoir comparer ce témoignage littéraire avec un fragment de papyrus daté du 1er siècle après Jésus-Christ, ou au plus tard du début du 2e siècle, donc quasi contemporain de Pétrone, de Perse, de Quintilien. C'est un papyrus conservé aux États-Unis, papyrus Michigan et Yale. Il est coupé en vertical en deux parties, peut-être pour mieux le vendre. Les textes emploient une cursive ancienne inclinée vers la droite et présentent deux rubriques en rouge aux lignes 6 et 15 qui délimitent de brefs chapitres. Le premier chapitre est consacré à une phase de la Bonorum Venditio. On voit plus ou moins le début du mot Bonorum. La vente aux enchères du patrimoine du débiteur en défaut de paiement ou d'un défendeur défaillant. Le second titre se réfère au iud ex datus, tout au fond. Le juge privé désigné pour régler un litige, probablement dans le cadre de la même procédure. Alors, nous sommes donc en présence d'un texte juridique rubriqué. Du point de vue matériel, ce papyrus est non seulement le plus ancien qui nous soit parvenu avec un texte d'un juriste romain, mais aussi le plus ancien papyrus latin à contenir des rubriques. Cela suffit à démentir une idée bien enracinée à laquelle je viens de faire référence à propos de l'histoire des études, selon laquelle la présence des titres en rouge aurait été introduite dans les livres juridiques seulement dans l'Antiquité tardive lors de l'adoption du format de codex, c'est-à-dire format cahier, au 3e ou au 4e siècle. Cet exemplaire est du 1er, 2e siècle après Jésus-Christ. Il montre que l'emploi des titres est bien plus précoce et concerne déjà les rouleaux, parce qu'il s'agit d'un rouleau, ce n'est pas un codex. La littérature juridique romaine jouissait donc par sa mise en page d'une identité reconnue par ses contemporains. Mais un autre facteur renforçait davantage la physionomie des textes jurisprudentiels. Il présentait une ressemblance étroite avec d'autres textes juridiques, en particulier avec les lois, approuvées par le peuple ou par la plèbe, qui étaient souvent gravées sur du bronze et affichées dans les lieux fréquentés de Rome et des cités de l'Empire, de sorte que tout un chacun pouvait en prendre connaissance. Qui confronte un chapitre de la Lex Irnitana, statut du municipe espagnol d'Irni d'époque flavienne, qui jouissait du statut d'un municipe latin, qui confronte ce chapitre avec le papyrus plus ou moins contemporain dont nous venons de parler, le papyrus Michigan-Yale, perçoit immédiatement un air de famille. Sur le papyrus, le titre est signalé, vous vous en souvenez, à l'encre rouge et semble occuper la ligne entière. Sur le bronze, le titre est signalé par le sigle R et occupe la ligne entière. Quo ordine sententiae interrogentur. Dans quel ordre les décurions doivent être interrogés. Avec un retrait, un vacat à droite comme à gauche, de façon que le titre soit détaché. Dans les deux cas, inscription et papyrus, la rubrique divise le texte en unités de sens que la Lex Irnitana elle-même qualifie de capita, de chapitre. En outre, la Lex Irnitana souligne visuellement le début du caput par une initiale d'une dimension plus large et dépassant à gauche, en ecthesis. La perte de la marge gauche du papyrus empêche de vérifier si les mêmes procédés, donc on devrait le trouver ici, parce qu'on a perdu cette partie et aussi à droite, empêche de considérer, de vérifier si le même procédé y a été employé, mais on le trouve en tout cas dans d'autres manuscrits. Ici, c'est le manuscrit le plus important, c'est un palimpseste, et nous ne pouvons que montrer l'apographe du 19e siècle, parce que l'utilisation des produits chimiques a endommagé le manuscrit, mais on espère pouvoir le faire ressurgir à la lumière avec des nouveaux procédés. Donc, vous voyez qu'on trouve la même mise en page, titre précédé du sigle R, début du chapitre, avec la première lettre qui est de dimension plus large et dépassant à gauche. On peut essayer de montrer les deux textes l'un après l'autre. Ce que je vous montre ici, en revanche, c'est un extrait d'un ouvrage du juriste Elius Marcianus, que nous avons identifié dans trois fragments de papyrus conservés au musée à la Bibliothèque nationale de Vienne, et provenant peut-être du nommé d'Arsinoé, datable du 4e siècle par des critères paléographiques. Et le texte était mis en page sur deux colonnes. Ici, par exemple, on voit sur la page de droite, on voit les premières lettres de la deuxième colonne, première colonne interne de la page de gauche. Et ici, on aurait pu voir la première colonne. Alors, ce fragment 2 représente la portion supérieure centrale d'un folio double qui conserve la marge supérieure et interne. La présence d'une bande de renfort en parchemin sur le pliage interne laisse penser que ce folio double était au cœur du cahier auquel il appartenait. Donc il faut imaginer qu'on pouvait le plier. Alors, l'écriture est en minuscule primitive, tracée à l'encre marron par une main unique. La première colonne de la page de droite contient un titre intermédiaire. Vous voyez ici. Écrit en capital carré, R, sigle de tutore onorario. De tutore onorario. Il n'est pas écrit à l'encre rouge, mais le sigle qui précède et suit le titre, mais perdu ici, signifie précisément rubrique. Donc, fait allusion à la couleur. Alors, on peut dire, par cette rapide ce passage en revue de certains exemplaires, qu'on a une certaine persistance de la mise en page. Moi, je dirais plus qu'une persistance, il y a vraiment une structure qui se répète. Et qui se reflète aussi, presque en miroir, dans d'autres textes juridiques, notamment les inscriptions des lois. On pourrait se demander lequel des deux a été le modèle. Donc, est-ce que c'était plutôt les textes sur papyrus ou plutôt les inscriptions qui ont donné le modèle ? En tout cas, l'ensemble de ces comparaisons confirme la caractérisation donnée par Petron des livres jurisprudentiels dont la mise en page les rendait immédiatement reconnaissables par le public. Dans un jeu de miroir, leur identité se renforçait grâce aux similitudes avec les autres écrits juridiques. J'insiste parce que, à mon sens, on a toujours un peu la tendance à sous-estimer la présence de l'écriture dans le paysage juridique romain. Je vous expose, alors donc ici vous voyez les trois exemplaires que je vous ai montrés et leur disons, similitude. Je vous expose et présente ici la liste de toutes les attestations directes des rubriques, c'est-à-dire des intertitres, dans les textes, les exemplaires, les fragments des livres des juristes romains qu'on a pu repérer. Alors, il s'agit, si je vois bien, de 7 exemplaires. Alors, il faut toujours penser qu'il s'agit de 7 exemplaires sur les 40 qu'on a retrouvés. Et si vous vous demandez est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est une proportion minime, il faut penser qu'on a, dans la plupart des cas, seulement de très petits fragments. Donc, il faut considérer que statistiquement, c'est très difficile de tomber sur un fragment qui porte justement sur un titre. C'est-à-dire, le titre, c'est un élément qu'on retrouve peut-être une fois dans 2 pages, par exemple. Et donc, si on a seulement un fragment, retrouver le fragment, avoir la chance de tomber sur le fragment qui porte le titre est assez, disons, improbable. Donc, 7 fragments sur 40 constituent déjà vraiment un nombre très conséquent. Venons maintenant aux derniers éléments de l'organisation, de la mise en page, les chapitres. Alors, là également, cette articulation est déjà attestée à l'époque républicaine par ce texte de Cicéron. Je le lis très rapidement. « Tu t'es moqué de moi hier entre deux coupes pour avoir affirmé qu'il y avait une controverse sur le fait de savoir si un héritier pouvait légitimement exercer une action pour vol à propos d'un vol commis avant l'acceptation de la succession. C'est pourquoi, bien que je sois rentré chez moi, ayant bien bu tardivement, j'ai repéré le caput pertinent, je t'en envoie une transcription. Tu constateras que l'opinion qui, selon toi, n'a jamais été soutenue par personne, a en réalité été défendue par Sextus Elius, Manius Manilius, Marcus Brutus. Pour ma part, cependant, je suis d'accord avec Scaevola et Testa. » Testa, c'est le destinataire de ce billet de Cicéron. Donc, c'est un juriste, et ils avaient discuté, et Cicéron avait soutenu qu'il y avait une opinion que le juriste niait qui existait, qui avait été mise en avant. Et donc, il transcrit un caput du livre de Scaevola et l'envoie à son ami. Et on a ici le témoignage que déjà à l'époque de Cicéron, les livres des juristes étaient articulés en chapitres. Et vous voyez ici la liste des chapitres qu'on a retrouvés dans les papyrus que nous avons édités. Alors, la liste est beaucoup plus longue par rapport aux intertitres, pour les raisons statistiques que je viens de citer, parce que le caput est une articulation beaucoup plus fréquente dans les textes, donc si on trouve un fragment, il y a une bonne probabilité de tomber sur le début d'un chapitre. Alors, il faut, et je vais rapidement conclure, s'arrêter sur une question méthodologique. Quand on dispose d'un manuscrit antique, comme dans les exemples que je vous ai montrés, et qui sont ici listés, on est en mesure de relever la présence d'éléments paratextuels et en même temps de connaître leur rendu graphique. Par exemple, à l'encre rouge ou avec la première lettre en ecthésis agrandie. Mais lorsque, comme ici, par exemple. Vous voyez un chapitre avec les premiers mots en encre rouge. Donc, l'encre rouge était utilisée non seulement pour les intertitres, mais aussi pour marquer le début d'un chapitre. D'où cette caractérisation comme libra rubricata de la part de Petron. Alors, lorsqu'on a le texte, on peut se dire c'est un chapitre, on voit très bien comment il a été rendu. Mais lorsqu'on a, par exemple, un passage comme celui de Cicéron, comment est-ce qu'on peut s'imaginer que le chapitre du livre de Scaevola était mis en page? On ne peut pas le dire, parce qu'on a seulement cette notation, cette attestation qu'il existait une articulation en chapitre. Alors, donc ici, c'est vraiment le moment de le dire de façon très rapide, parce que vous connaissez mieux que moi, tant que papyrologue ou paléographe. Pour le livre antique, à la différence de livre imprimé, le spectre des différences, Francesca parlait de cette fluidité du manuscrit antique, le spectre des différences était très ample, chaque manuscrit étant anonymum, et par conséquent, la généralisation à partir d'éléments particuliers sont à éviter, du type tous les livres juridiques antiques étaient pourvus de rubriques ou d'articulations en chapitre. Néanmoins, c'est un peu le point que je soumets à votre attention, l'ensemble de cette documentation est, disons, sous l'étiquette, sous le drapeau de... moi, je dirais pas sous le drapeau, sous les yeux de Petron, nous montre que ces éléments étaient très diffusé, presque une caractéristique structurelle. Alors, et c'est le dernier élément, un cours rédigé en grec nous en offre, pour ainsi dire, un témoignage presque direct. Nous savons, grâce à des sources multiples et concordantes, que le texte des juristes romains était le livre qui était étudié à l'école, dans l'Antiquité tardive, l'école de droit. Parmi ces livres figurait le commentaire d'Ulpien à un autre juriste qui s'appelait Sabinus, donc commentaire d'Ulpien ad Sabinum, composé, ce commentaire, au début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Deux siècles et demi plus tard, un maître enseignant en grec, peut-être à Bérite, peut-être ailleurs, en proposait l'explication à ses élèves. Une partie du cahier des notes nous est parvenue. Voici ce qu'il déclare, ce maître, dans un passage. Saute les chapitres 17 et 18. En fait, tout ce qui est traité, je l'ai dit, je l'ai déjà commenté auparavant, à propos du livre 35 d'Ulpien, titres 2 et 3. Donc, nous avons ici la preuve que ce maître et cet élève avaient sous leurs yeux un exemplaire du livre d'Ulpien qui était articulé en titre, en chapitre, et qu'ils étaient aussi numérotés. Le maître lisait, commentait chapitre par chapitre, et il lui arrivait parfois, comme ici, d'indiquer qu'il en sautait certains. Donc, cela montre, encore une fois, cette homogénéité de la périgraphie, mais il y a un autre aspect sur lequel je voudrais conclure. Si l'on compare la manière dont, au fil des siècles, les lecteurs romains se réfèrent aux ouvrages des juristes, on observe, c'est ce que j'ai pu observer, une progression de la précision des citations. Alors d'abord, jusqu'au IIe siècle, on se contentait de dire, comme le dit Julien dans ses digestes. Puis, au IIIe siècle, on commence à indiquer le livre, comme le dit Julien dans le deuxième livre de ses digestes. Enfin, à la fin de l'Antiquité tardive, les citations mentionne non seulement les livres, mais aussi les titres et les chapitres. Faut-il y voir le signe d'une intensification de l'appareil paratextuel? C'est une possibilité, mais je ne le crois pas. car l'ensemble des témoignages me paraît avoir montré clairement que les livres des juristes bénéficiaient dès les premiers siècles après Jésus-Christ, sinon plutôt dans par un texte déjà très développé, qu'on pourrait qualifier presque d'appareil d'auteur. Ce qui change, me semble-t-il, c'est plutôt l'attitude des lecteurs à l'égard du droit lui-même et des livres qu'il incorpore. Le rapport entretenu avec ces livres devient progressivement celui qu'on a avec des classiques, qu'on a avec des textes de référence. On a ici vraiment un exemple de la fonction de la périgraphie d'institutionnaliser un texte. Le paratexte, la périgraphie, est désormais envisagé comme le cadre d'un tableau. Il protège le texte qui est placé au centre et permet un accès précis et contrôlé et contribue à le transformer en un classique. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.